C'est toujours un plaisir de revenir. Ça fait un petit bout de route pour venir là, mais je revois la famille et puis des amis de très longue date. On est parti d'Angers il y a plus de 15 ans, j'ai arrêté de compter. Mais bon, il y a toujours des têtes connues et puis ça fait plaisir de voir aussi des nouvelles têtes. Par rapport au site Lueur, c'est donc un site qui avait été mis en place par l'église ici en 1999, donc ça fait quand même 20 ans. Et y a la présentation de la Bible, on peut lire la Bible, on peut faire de la recherche, comparer des versions. Et il y a aussi des articles pour connaître la foi, pour approfondir la foi. Et puis on essaye au fur et à mesure, avec les petits moyens et le temps qu'on a, de pouvoir ajouter des enseignements audio, vidéo, tout ce qui peut être utile à creuser la foi et ou même à la découvrir pour certains qui peuvent arriver sur le site avec des articles et puis des textes qui sont à leur portée pour comprendre la foi chrétienne. Donc il y a une association qui existe depuis plusieurs années que, si vous voulez, vous pouvez soutenir avec une cotisation en tant que membre, c'est 16 € l'année. Ou par des dons, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de source de revenus pour le site, et puis ça demande quand même quelques moyens financiers. Et puis sinon, si vous avez un peu de temps à consacrer, tout bénévole sera bienvenu, parce qu'il y a des outils qui sont en place pour, si vous aimez les textes, les articles, eh bien on en a beaucoup qu'on peut ajouter sur le site, mais il y a besoin de quelqu'un pour les traiter. Et puis voilà, si vous aimez la musique chrétienne, vous pouvez aussi consacrer du temps. Il y a une rubrique musique chrétienne si vous voulez faire découvrir les groupes chrétiens que vous aimez. Et puis toute autre implication, sachant que moi je suis le développeur du site et je mets des outils en place pour que ce soit facile pour les personnes qui veulent donner un coup de main. Voilà, donc papa est président de l'association, donc vous pouvez aller le voir pour tout ce qui est soutien. Et puis si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez me contacter. Voilà. Ce sera avec plaisir. Et puis faire connaître aussi le site, partager les liens, ça aide aussi à ce que d'autres puissent en profiter. Alors, sans transition, comme diraient certains journalistes, je me suis dit que pour l'été, c'était sympa de prendre un thème un peu léger, donc j'aimerais parler de l'épreuve de la foi. Voilà. Alors, parce que Paul, quand même, il n'arrête pas de dire qu'il est dans l'épreuve, mais qu'il faut se réjouir en tout temps, et que même, il faut se réjouir d'être dans l'épreuve. Voilà. Alors, je sais pas, on peut faire un petit sondage, là. Qui a déjà été dans une belle épreuve, là? Et demain, voilà. Qui s'estime en train de vivre une belle épreuve aussi? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Bon, tous ceux qui n'ont pas levé la main, ça va bientôt arriver. Hein, donc, vous inquiétez pas. La vie, c'est comme ça. À un moment donné, on tombe dedans. Et ce qui compte quand même quand on est dans l'épreuve, et comment on peut réussir à se réjouir de passer l'épreuve, c'est de savoir pourquoi elle est là, et de savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on vive, et de savoir aussi, du coup, quel est un peu l'objectif, même si on ne comprend pas toujours qu'on est dans l'épreuve, mais en tout cas, savoir que Dieu a préparé la porte de sortie et de savoir comment la vivre. Et du coup, c'est un peu de... Quand on se sent dans une situation comme ça un peu compliquée, de se dire, c'est quoi la clé de lecture? La clé de lecture du moment que je suis en train de vivre. Alors, une clé de lecture, je vais vous donner un exemple. Ici, il y a quelqu'un qui doit connaître le grec, il a écrit du grec. Bon, je ne suis pas sûr que la majorité ici sache décoder. Par contre, si quelqu'un sait lire les lettres grecques, vous allez savoir à quoi ça ressemble. Iesus Christe. Ce qui veut dire Jésus-Christ. Donc avec la clé de lecture qui nous permet de lire le grec, on se dit, tiens, ça c'est comme une épreuve de grec, et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ. Bon, on va faire pareil ici. Attention, ça c'est à l'envers. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui lisent l'hébreu. Alors, comme ça, ça paraît un peu indéchiffrable. Mais si on a la clé de lecture de l'hébreu, Yeshua HaMessia, ce qui veut dire Jésus le Messie, ce qui veut dire Jésus-Christ, c'est la même chose. Tiens, on a fait une épreuve de grec, une épreuve de latin, et au milieu, il y a qui? De grec et d'hébreu. Et au milieu, il y a Jésus-Christ. Dans les épreuves qu'on passe, il y a Jésus-Christ, toujours. Et le moteur pour passer à travers l'épreuve, le moteur pour grandir au travers de l'épreuve, ça va toujours être Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je parle de l'épreuve de la foi, parce que là où on va passer, là où ça va être difficile, c'est toujours en regardant à Jésus-Christ qu'on en sort, non seulement qu'on en sort, mais qu'on en sort grandi. Et l'idée, c'est de se dire, il y a quelque chose de dur, ok, mais qu'est-ce que je peux apprendre de Dieu et comment je vois Jésus-Christ au travers de cette épreuve. Et ça peut être la maladie, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être au niveau des difficultés financières. Je veux dire, on peut décrire tous les problèmes de l'humanité, et soit on le vit avec fatalisme en disant c'est la vie, ce que font les non-croyants, bon c'est la vie, voilà, c'est un accident de voiture ou j'en sais rien quoi, c'est la vie. Oui, c'est la vie, il y a des causes, il y a des conséquences, mais quand on le regarde avec, justement en regardant à Jésus-Christ, on peut réfléchir à se dire, dans la situation où je suis, c'est compliqué, mais la première chose c'est, on lâche pas la main de Dieu, et puis la deuxième chose c'est, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Il ne veut pas juste nous tirer comme ça et puis nous faire sortir sans qu'on ait profité pour se poser des questions, pour essayer de s'approcher de Dieu et finalement de construire, d'améliorer, d'approfondir notre relation à Dieu au travers de cette épreuve-là. Et il y a Galates 5:6 qui nous dit « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit dans l'amour. » Et l'idée, c'est que quand on va passer dans les épreuves, tout ce qui va importer, c'est notre foi qui va agir dans l'amour. Et pour ce faire, on vit une épreuve, c'est donc difficile émotionnellement, je ne sais pas, ça peut être une épreuve dans la santé. Donc on peut vivre des niveaux de difficulté, mais la manière de le vivre, ce que Jésus-Christ nous demande, c'est de le vivre avec foi, avec des actions, et qu'il soit dans l'amour. Alors, ça nous pose la question, qu'on soit en ce moment dans une épreuve, qu'on y soit passé, parce que l'avantage, une fois qu'on est sorti, c'est d'avoir une facilité à relire un peu ce qui s'est passé, et puis de voir les conséquences, et puis de se reposer des questions par rapport au fait de pourquoi cette épreuve a eu lieu, et qu'est-ce qu'on a vécu au travers de cette épreuve, et puis de continuer à tirer des conséquences, même une fois qu'elle est terminée. Et puis aussi, je parle à ceux qui ont la chance d'encore, de ne pas avoir encore trop traversé de difficultés, de se dire, mais comment se projeter aussi dans le futur, pour savoir quelle est la clé de lecture, comment trouver la clé de lecture des choses par lesquelles on passe. Et donc, la question, c'est déjà, où est-ce qu'on en est de notre foi et de notre amour quand on est dans cette situation d'épreuve? Parce que si on se rend compte qu'on n'est pas dans la foi en Dieu, on va se reposer sur nous-mêmes, on va se reposer sur les autres, on va aller chercher nos ressources pour sortir de l'épreuve, des ressources qui ne vont pas être les ressources de Dieu, et donc ça ne va pas être efficace ou ça ne va pas nous permettre de travailler ou de grandir en maturité, parce qu'on s'est servi de ressources humaines au lieu d'aller chercher ce que Dieu dit, ce que Dieu veut faire. Et c'est donc rechercher la foi en ce que Dieu veut pour nous au travers de cette épreuve. Et puis rechercher l'amour aussi, parce que au final, on vit une difficulté, et puis on peut avoir le réflexe de dire « Dieu, tu m'abandonnes, tu m'aimes plus », et puis finalement, certains en arrivent à en vouloir à Dieu de passer par des difficultés. Les difficultés, elles arrivent, je vais vous détailler un petit peu après pourquoi ça peut arriver, mais quand on y est, il ne faut pas douter de l'amour de Dieu, et puis il ne faut pas que notre amour pour Dieu diminue, et pas non plus que notre amour pour les autres diminue, parce que les problèmes peuvent devenir à cause des autres. Et c'est là aussi qu'il faut que Dieu va finalement tester notre amour en action par rapport aux autres. C'est dans la difficulté, c'est dans une relation compliquée qu'on va mesurer à quel point on arrive à rester dans l'amour. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. À un moment donné, on veut mettre la parole en pratique. Donc, où est-ce qu'on en est de l'amour pour l'autre qui me fait du mal? Parce que finalement, des épreuves, on en a, et il faut vraiment se positionner comme c'est comme passer un examen, quoi. Et qu'est-ce que Dieu veut tester? À quoi sert un examen? C'est à valider des connaissances. Imaginons, on va à la fac, on passe un examen, on est allé partiel à la fac, on valide des connaissances et des compétences. Et en tant que croyant, on a des connaissances bibliques sur qui est Dieu, sur notre identité. On a des compétences aussi que Dieu nous donne, des dons spirituels, des talents, des choses. Et puis, au travers des épreuves, c'est comme si Dieu vient tester. Est-ce que, et puis nous-mêmes, on peut se dire, à quel niveau j'en suis, où est-ce que j'en suis? Et donc, de vouloir vraiment tester où on en est, quoi. Où est-ce qu'on en est de notre foi? Où est-ce qu'on en est de notre amour? Et puis finalement, où est-ce qu'on en est du don de nous-mêmes? C'est-à-dire, dans Luc 14, il est dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ça va loin. Ça veut dire qu'il faut, préférer à Jésus sa propre vie. Il faut renoncer, on peut avoir à renoncer à des désirs qui peuvent être en nous et qui sont contraires aux désirs de Dieu. Donc, à un moment donné, dans l'épreuve, on va être aussi confronté à ça. On a des désirs, mais on a la connaissance de ce que Dieu nous demande, on a les commandements, les règles de vie que Dieu nous demande de suivre. Et à un moment donné, on se retrouve confronté à dire, ah oui, mais moi, j'ai envie de ça. Et puis, dans la Bible dit, oui, mais Dieu te dit que c'est un mauvais désir, c'est quelque chose qu'il ne faut pas poursuivre et que Dieu a des choses meilleures. Et donc là, on se retrouve à devoir choisir, à renoncer à nous-mêmes pour obéir à Dieu. Donc c'est une des manières, c'est juste là un exemple, qui montre à quel point on a à lâcher des choses qui sont de nous-mêmes pour mettre ce que Jésus veut en avant. Et bien souvent, on se retrouve à essayer de faire des compromis, parce que c'est plus facile. Donc, un petit peu de ce que je veux, un petit peu de ce que Dieu veut, puis on mélange tout ça. Et finalement, quand on fait des compromis, et toute la Bible le dit, on peut lire toute l'histoire d'Israël, dès qu'il y a du compromis, il y a la perte de la bénédiction. Et quand on est dans le compromis, il y a de fortes chances pour que la part de Dieu diminue et qu'on se retrouve dans la malédiction. Et c'est pour ça que Dieu, il nous dit, par rapport à l'épreuve, par rapport aux difficultés, réfléchis à qu'est-ce que je te demande, qu'est-ce que toi tu veux, et quel est le choix que tu fais entre les deux, si les deux ne vont pas dans le même sens, pour que tu poursuives la bénédiction que je veux te donner en suivant les voies que je veux ouvrir. Et en fait, la question, c'est aussi celle de la sanctification. Où est-ce qu'on en est dans le fait de sortir de nos vies ce qui est charnel, et puis de nous remplir de ce qui est céleste. Alors, j'avais une petite image. Des fois, la vie, c'est vraiment pas facile, et puis on peut avoir l'impression d'être comme attaché sur une croix. Et quand on est attaché sur une croix, il y a plusieurs choses qu'on peut pas faire. D'abord, on peut pas bouger les pieds. Et c'est vraiment l'image du fait que des fois, on peut avoir envie d'être quelque part, on peut avoir envie de vivre quelque chose, on peut avoir envie de bouger, et puis on se retrouve avec les pieds qui sont attachés. Et là, on a l'impression que dans notre vie, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et puis on aimerait être ailleurs, et puis il y a des choses qui coincent, on est toujours au même endroit. Ça peut être une épreuve, et ça peut être, voilà, dans le travail, on n'est pas content dans le travail, on vise un autre poste, on vise quelque chose d'autre, ça arrive jamais, on n'arrive pas. Puis ça peut être, voilà, envie d'aller vivre même ailleurs, envie d'avoir des projets, et puis que ça ne se fasse pas. Et là, c'est vraiment, on ne peut pas bouger, quoi. Et après, qu'est-ce qui se passe sur la croix?
On ne peut pas parler dans le micro.
Parce que on n'a pas les mains qui sont libres, et c'est vraiment l'image de qu'est-ce qu'on veut construire. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos mains? Avec nos mains, on aime bâtir, on aime... Alors, ceux qui bricolent, ils savent de quoi je veux parler. On aime manipuler, ceux qui sont artistes aussi, qui aiment peindre ou faire de la poterie. On aime faire des choses, et c'est aussi l'image de ce qu'on peut vouloir faire dans nos vies, de construire des choses. Et puis là, on peut se retrouver à dire, mais il n'y a rien qui bouge, quoi. On a l'impression qu'il y a peut-être à un moment donné eu un les fondations un peu là, mais qu'on a les mains liées. Par exemple, on est pris dans des choses qui bouffent tout notre temps, ou on peut être dans des situations où on se dit j'aimerais faire, et donc c'est beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Et puis qu'est-ce qui se passe sur la croix quand on regarde Jésus? Il y a les couronnes d'épines. Et les couronnes d'épines, là, c'est tout ce qui peut être des écharpes dans nos vies, des choses qu'on a subies quand on était jeune, quand on était enfant, des blessures de la vie qu'on n'a pas guéries. Et toutes ces écharpes-là, ça fait qu'on se retrouve avec des douleurs qui persistent, avec des sources de tristesse. Et voilà, on peut se sentir comme ça, comme sur une croix, et on finit découragé la routine, le ras-le-bol. On peut être dans cette situation-là de manière assez globale, parce que aussi la vie, ça va pas toujours aussi bien qu'on veut, quoi. Après, il y a un truc que moi j'ai tenté, et puis je vous le conseille pas tout à fait, c'est de vouloir éprouver ce que Dieu a donné. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, Dieu m'a permis de vivre un temps avec lui il y a un bon moment. Et puis, il a réalisé une transformation en moi. Et puis, je suis sorti d'un temps de prière, comme ça, j'ai dit, mais c'est miraculeux, c'est merveilleux. Seigneur, je veux être sûr que tu me l'as vraiment donné, je veux que tu le testes. Je ne lui redemanderai plus ça, hein, parce qu'il va le faire. Alors, je dis pas que c'est mauvais de tester, que c'est mauvais de vouloir... Mais faut savoir que Dieu, il écoute et il répond. Donc, vous demandez les bénédictions, oui, il veut vous les donner. Vous demandez l'épreuve, Alors, il a mis à l'épreuve, et puis c'était à moi de rester fort en Christ en disant, mais tu m'as vraiment donné ça, je vais y arriver, ça va tenir, et puis de travailler, et puis de dire, tiens, là, il y a des choses, Dieu a agi, il a transformé, et puis après, il y a à nous aussi les dons que Dieu nous donne. Il nous demande de les travailler comme un musicien, comme un artiste, d'être vraiment aussi à chercher à ce que ça vienne transformer dans nos vies le maximum, et de pas juste se contenter béatement d'avoir reçu quelque chose, mais vraiment de le faire travailler pour nous et puis pour les autres. Alors bien sûr, une autre source d'épreuve, c'est le diable. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. À partir du moment où vous donnez votre vie à Jésus, il y a des choses qui s'ouvrent devant vous, il y a des bénédictions, et il y en a un qui ne veut pas que vous les ayez, tout bêtement. Et donc, il y a un vrai combat spirituel. Il faut savoir qu'il y a des anges, qu'il y a des démons, et qu'ils essayent, les uns et les autres, surtout les démons, d'influencer vos vies pour vous éloigner le plus de Dieu. Et qu'il y a des épreuves qui vont être là pour, justement... faire en sorte que dans nos fragilités, on puisse être poussé dans une direction qui est contraire à celle que Dieu demande. Le but étant qu'on s'éloigne de Dieu, et puis qu'on soit empêché de recevoir les bénédictions. Alors on peut être dans une épreuve comme ça, et puis se dire, c'est quand même très dur, mais quand Israël a été envoyé à Canaan, Dieu ne les a pas juste mis là en disant, il y a des géants, débrouille-toi. Dieu a poussé le peuple d'Israël à combattre les géants en sachant qu'il a les donné les moyens d'obtenir la victoire. Donc nous, on peut se retrouver devant des géants, mais si Dieu nous permet d'être face à un géant, c'est parce qu'il nous permet aussi d'obtenir les moyens d'avoir la victoire sur les géants. Et on peut être comme David, à finalement se retrouver devant Goliath, et puis on est les mains dans les poches, et puis on dit, Seigneur, c'est vraiment dur, là, je vois pas, et je ne peux pas le contourner à droite, je ne peux pas le contourner, je ne peux pas passer ni au-dessus ni en dessous, quoi faire? Et c'est en ça que l'épreuve nous aide aussi à avancer avec Dieu, c'est parce qu'on va être obligé de se mettre devant Dieu et à dire, qu'est-ce que je dois prendre? Et là, il va vous dire, prenez 5 galets et puis une fronde. Bon. Ou vous dire autre chose, j'en sais rien, ça dépend. Mais l'image est là, Dieu va vous dire quoi utiliser pour avoir la victoire. Et il va vous donner la victoire. Et par rapport à Satan, il y a un pasteur qui a écrit quelque chose de très intéressant que j'ai relevé là. Une attaque révèle souvent que votre ennemi est convaincu que vous êtes capable d'atteindre votre objectif et volontaire pour finir votre mission. C'est-à-dire que si vous avez deux armées qui se combattent, s'il y a une armée qui dit « mais de toute façon l'autre elle va jamais réussir », ils vont pas faire d'efforts, ils vont pas aller gaspiller du temps, gaspiller des munitions, alors que ils savent très bien que de toute façon jamais vous allez réussir, l'armée va réussir à avoir la victoire. Or là, ce qui se passe, c'est que Satan il sait que en Jésus-Christ on a la victoire. Et donc finalement, Satan a peur de nous, il a peur qu'on réussisse. Et c'est pour ça qu'il envoie aussi de quoi nous détruire avant qu'on soit tellement entré dans notre mission avec les dons que Dieu nous donne, qu'on soit tellement efficace contre lui, qu'on fasse des dégâts dans son camp. Et ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on fasse des dégâts, qu'on arrive à aller sauver des âmes, qu'on arrive à restaurer des vies au travers de nous, que Jésus-Christ puisse être glorifié et puis que son royaume avance. Et puis, le texte termine en disant « Si ton ennemi croit en l'avenir que Dieu a pour toi, tu devrais faire la même chose. » Parce que Dieu parle sur nos vies, il dit des choses qui sont bonnes, qui sont fortes, qui sont des victoires pour nous et pour les autres. Et puis, si nous, on n'y croit pas, ça va pas marcher. Mais comme Satan y croit quand même, on devrait au moins, nous aussi, croire en ce que Dieu nous dit. Et puis pour finir, il y a quand même Dieu qui des fois veut nous faire passer l'épreuve. Alors moi j'ai déjà entendu, on dit oui mais bon Dieu est amour, il va pas nous envoyer, il va pas nous faire du mal. Bon. Genèse 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Bon on sait comment. Il a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, Isaac. Alors Dieu met à l'épreuve. C'est sûr que des fois l'épreuve est pas forcément, Dieu n'est pas forcément la source, mais des fois il met à l'épreuve, comme je disais, on va faire un test là, où tu en es de ta foi, où tu en es de ton obéissance, et il va envoyer des tests. Et c'est quoi le but? Deutéronome 8:2 nous dit souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu, il peut nous tester et il veut savoir deux choses. Quelles sont les dispositions de notre cœur et est-ce qu'on va lui obéir ou est-ce qu'on va vouloir prendre notre propre direction. Donc Dieu nous met à l'épreuve et puis il va regarder ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'épreuve que Dieu envoie, il n'y a pas juste, on se dit, tiens, bon, bah, avec l'image du géant, il y a un géant, on va aller le combattre et puis on va avoir la victoire. Ce que Dieu veut, c'est pas juste avoir le résultat. Ce qu'il veut, c'est qu'entre le problème et la sortie du problème, qu'on puisse faire la route avec lui et que finalement, c'est le processus vers la libération, vers la victoire, vers la fin de l'épreuve, c'est le processus qui fait partie du plan. Il n'a pas juste dit. Je veux te mettre là-bas, et puis qu'importe le chemin. Il dit, je veux te mettre là-bas, mais que dans le processus, tu puisses gagner en autorité, tu puisses gagner en compétence, en qualité, en don, que tu puisses gagner en sanctification, en maturité spirituelle. Donc le processus, c'est presque ce qui est le plus important pour Dieu. Il dit, on peut recevoir une parole prophétique qui dit, ben voilà, Dieu t'appelle à faire ceci, cela, d'accord, et ce qui importe, c'est le chemin qui va être parcouru. Dieu veut s'en servir. Il ne veut pas juste que vous soyez là où il a prévu que vous soyez. Il veut que le processus qui fait partie de son plan serve à nous faire grandir. Et puis, il y a des fois où Dieu envoie l'épreuve parce que sinon, on ne ferait rien, en fait. Dans le sens où... Si on est confortable, on ne va pas bouger, on ne va pas réfléchir, on ne va pas se dire qu'il faut faire autre chose. Et donc des fois, y a de l'inconfort, de l'épreuve qui vient pour qu'on se dise, bon, y a un truc qui cloche, il va falloir bouger d'ici et qu'on aille vers Dieu pour dire, bon, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la nouvelle direction, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Parce que sinon, des fois, on est bien confortable. Et on a notre vie de chrétien, et puis on vient là le dimanche, et puis après, il y a la semaine qui s'écoule. Et puis ça peut être très long comme ça, sans finalement qu'on puisse avancer dans le processus que Dieu a prévu pour nous amener dans notre champ de mission, là où il veut qu'on soit épanoui, parce qu'on devient efficace pour son royaume en étant dans les choses que humainement aussi il a mis en nous. Alors après, on se retrouve dans l'épreuve. Alors j'ai quelques petits points. Pour réfléchir à de quelle manière on va pouvoir passer cette épreuve-là. Et la première, c'est déjà d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on peut complètement être dans le déni. Et si on nie les problèmes, forcément, on ne va pas commencer à bouger, on ne va pas commencer à chercher une solution. On ne va pas aller chercher Dieu pour recevoir son aide et ses ressources. Donc la première chose, c'est d'accepter que quelque chose va mal. Et il y a l'exemple du burn-out, où les personnes qui tombent en burn-out, c'est des personnes qui sont très volontaires en général, qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie, avec beaucoup de cœur, et qui, pendant des mois et des mois, vont se dire « mais non, ça va, de toute façon, ça va se calmer, donc là, il y a juste une période compliquée, mais on va y être à fond. » Et puis, de continuer à sortir d'eux-mêmes des ressources pour un objectif, que ce soit le travail ou un autre, et en se disant pendant longtemps, mais ça va le faire, parce qu'une fois que ça va être fait, il y aura moins de charges, une fois que ça, ce temps-là va être passé, une fois que, je sais pas, une fois que qu'un collègue va arriver. Donc on se met comme ça dans une optique où on se dit, ça va pas si mal, et puis ça va le faire. Et finalement, on se retrouve presque du jour au lendemain à ne plus pouvoir rien faire du tout, quoi. Parce que le corps finit par parler, on a tout épuisé, on n'a aucune ressource qui nous reste, que ce soit la motivation, les ressources morales, les ressources physiques. Et on peut se retrouver aussi dans d'autres types d'épreuves à se dire, mais non, finalement, ça va. Il faut faire attention. Ça, je peux parler tout doucement. Alors, il y a un verset, un proverbe 28, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ça va un peu dans le même sens. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se poser, dire « Il y a un truc qui ne va pas. » Alors, il y a un truc qui ne va pas parce qu'on se rend compte qu'on est... alors, le péché peut être une épreuve, hein, une épreuve dans laquelle Dieu nous attend, en fait. Et attend qu'on prenne la bonne décision de lui obéir et puis de trouver en lui la force de résister au péché. Donc le burn-out, voilà, bon, on peut prendre tout un tas d'exemples où finalement on s'aperçoit pas, il y a comme un aveuglement où on n'a pas envie, parce qu'on sait que inconsciemment on se dit il y a un truc qui ne va pas, mais on se dit si ça passe au niveau conscient, ça va nous obliger à bouger. Et puis des fois, on ne veut pas bouger. Alors, quand on se rend compte quand même et qu'on est vrai avec soi-même et qu'on accepte que la situation est compliquée, qu'on va avoir besoin de bouger, qu'il y a une vraie épreuve qui est là, il faut... Le premier réflexe, c'est de regarder à Dieu. Et il y a un pasteur qui a dit « Quand tout ce que tu vois, c'est ta douleur, alors tu perds Dieu de vue. » Et c'est là qu'il faut faire attention à être attentif, et comme on a fait là, à essayer de trouver la clé, de se dire Jésus-Christ est quelque part là. J'ai l'impression d'être dans une situation où Dieu m'a abandonné, il ne répond pas aux prières. On peut prier pendant longtemps sans que les choses bougent et avoir cette impression que Dieu n'est pas avec nous. À un moment donné, Jésus sur la croix a eu cette impression-là. Il y a du Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et nous, on se retrouve dans des épreuves et à un moment donné, on peut se dire « Mais pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi ça m'arrive ?» Alors, Dieu ne répond pas toujours au pourquoi. Mais quand on lui demande le comment, il va nous aider. Et un autre réflexe qu'on peut avoir, à un moment donné, quand Jésus est sur la croix encore, il y a un soldat qui vient et il dit « Sauve-toi toi-même ». Et on peut avoir tendance à chercher des solutions humaines pour nos problématiques avant d'aller devant Dieu et dire « Seigneur, tu as forcément la solution et j'aimerais faire le choix en fonction de ta solution ». Alors faire soi-même, c'est prendre des décisions sans consulter Dieu, c'est faire des choses qui ne sont pas dans le bon timing. Des fois, Dieu va nous demander de patienter avant d'agir, avant d'essayer de faire des choses. Et puis de vouloir faire par nos propres forces, donc c'est là aussi qu'on va s'épuiser et puis que ça ne va pas être efficace. En fait, Jésus, il aurait pu complètement se sauver lui-même, c'est ça le truc. Et j'imaginais dans un article récemment que j'ai écrit que Jésus aurait complètement pu descendre de la croix, parce qu'il y en a un qui dit « oui, t'as qu'à appeler les anges ». Alors juste avant, hein, avant de se faire arrêter, il y avait des anges qui étaient venus voir Jésus. Alors il aurait pu descendre de la croix et puis dire « bon, bah, vous voyez, hein, je peux le faire ». Et puis en même temps, les juifs qui étaient là qui voulaient un roi, bah, ils auraient eu un roi. Et puis Jésus aurait pu finir, je l'imaginais comme ça, finir comme un David, voilà, dans un palais à Jérusalem. Et il aurait fait plein de choses merveilleuses. Mais il n'aurait pas accompli sa mission. Et c'est là le problème. C'est que la mission de Jésus, c'était quand même de sauver l'humanité. Bon, nous, on n'a pas besoin d'aller sauver le monde, comme ça, autant que lui. Mais on a quand même des missions, et souvent une mission principale que Dieu va nous mettre à cœur au fur et à mesure qu'on grandit avec lui, et puis des talents, des choses qu'il va nous donner pour l'accomplir. Et donc, de se dire, à un moment donné, je ne veux pas faire le choix de descendre, de me sauver moi-même et d'agir par moi-même, je veux faire le choix de rester accroché aussi longtemps que c'est Dieu qui a prévu que je reste accroché. Et quand les personnes viennent le décrocher de la croix, qui finit mort, on peut avoir cette impression là aussi des fois, de se dire bah, j'ai l'impression d'être mort, j'ai l'impression là l'épreuve elle est tellement douloureuse, tellement compliquée, qu'on en arrive à sentir que notre vie est morte quoi. Mais bon, bah, Jésus attend et c'est Dieu qui agit pour les ressusciter et on n'a pas vraiment d'autre solution non plus parfois que d'attendre que Dieu agisse, mais en restant dans la confiance et dans l'attachement à Dieu. Alors l'important, comme je disais tout à l'heure, c'est que Dieu a prévu la sortie. Et ce qui aide forcément à passer l'épreuve, c'est d'entrevoir la sortie. Et Dieu, il parle. Il parle toujours. C'est comme là, il y a toutes les radios FM qui passent, mais on ne les entend pas. C'est souvent l'image qui est prise. Il suffit d'allumer un poste radio et de se mettre sur la bonne fréquence pour entendre. Et des fois, on attend, et puis, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. On ne se met pas en position, des fois, de demander à Dieu. On ne demande même pas. Et des fois, Dieu va attendre qu'on lui demande pour nous parler. Alors on peut être là dans les problèmes, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, et ça peut durer longtemps. Et à partir du moment où on dit, Seigneur, explique-moi ou montre-moi, et ce que Dieu veut faire systématiquement, c'est donner une vision. C'est-à-dire, la sortie, ça ressemble à ça, c'est là-bas, il y a une direction, il y a une destination, il y a une vision, il y a quelque chose, il y a un but. Après, la manière dont on va y arriver, c'est toujours ça, c'est le processus, c'est lui qui l'a entre les mains, et c'est lui qui veut faire quelque chose au travers de cette épreuve. Donc, on peut se retrouver à ne pas savoir, et il y a un verset qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est la même chose quand on est dans l'épreuve. Quand on ne sait pas ce que Dieu a prévu, eh ben on a l'impression de tourner dans le désert. Le peuple d'Israël avait sa vision, c'était Canaan. Avec cette vision-là, ils ont quand même tenu dans le désert. Dieu les a fait tourner parce qu'ils étaient punis, ils avaient désobéi. Mais ils avaient toujours la vision, le but c'est quand même Canaan, et dans cette épreuve du désert, eh ben, on ne perd pas de vue la vision. Il y a un autre verset, le Proverbe 29, qui dit « Quand il n'y a pas de vision ou de révélation, le peuple se laisse aller. » Donc on peut être comme ça, à baisser les bras en fait, et à perdre la confiance en Dieu, et puis à être démotivé, à ne pas trouver la force d'avancer. Mais à partir du moment où on a une vision, où Dieu a parlé sur notre avenir, à ce moment-là, on peut se relever et puis recevoir les ressources qui viennent de Dieu, parce que dans la confiance qu'on met dans la vision qui est reçue, eh ben, on peut recevoir de quoi avancer. Donc la question, elle est là. Pour ceux qui sont dans l'épreuve en ce moment, c'est est-ce que vous avez reçu une vision? Est-ce que vous avez reçu quelque chose de qui vous donne foi dans l'avenir que Dieu a prévu pour sortir de cette épreuve? Et si vous n'avez pas reçu cette vision, ben, c'est vraiment le moment de se mettre devant Dieu et puis de dire, mais oui, c'est dur, mais je ne veux pas juste continuer sans savoir ce qui va se passer, parce que j'ai besoin, Seigneur, que tu me montres là où tu m'emmènes, pour que je puisse continuer, retrouver l'espoir, trouver la force, avoir confiance et être rassuré. Et ensuite, alors je cite pas mal de pasteurs en ce moment, parce que j'ai pris pas mal de notes en ce moment, mais bon, vous n'avez pas des noms de tout le monde, mais il y a un homme qui a dit « Ne base jamais ta foi sur tes émotions, base ta foi sur la parole de Dieu. » Et c'est là qu'à un moment donné dans l'épreuve, si on n'a pas une parole de Dieu qui parle de la situation, de ce que Dieu, qui nous parle à nous, de ce que Dieu veut faire, on va finalement se laisser happer facilement par nos émotions et qui en général sont un peu négatives en situation d'épreuve. Et donc, recevoir la parole de Dieu, quelque chose qui soit précis pour nos vies, ça peut être un verset biblique où Dieu va vous parler vraiment précisément. Ça peut être le Saint-Esprit qui parle dans un moment de prière, qui vous dit quelque chose. Ça peut être une parole prophétique de plusieurs manières, de toutes les manières que Dieu peut utiliser. Il va vous répondre si vous lui demandez vraiment de parler sur la situation. Alors, une fois qu'on a reçu ça, il faut croire en ce que Dieu a dit. Parce qu'on peut continuer à dire, oui, mais alors Dieu, il a dit ça, mais tu vois, il y a ceci, il y a cela. Et puis on continue à se morfondre, on continue à lister les problèmes. Alors qu'une fois que Dieu a parlé, ce qu'il nous faut, c'est nous positionner en tant que victorieux sur la parole de Dieu. Et c'est-à-dire de prendre position et de parler, parce que nos paroles sont importantes, à dire, je ne vais pas rester dans le désert, Dieu a la porte de sortie, il me l'a montré et je vais y arriver. Et de proclamer comme ça des choses qui ne vont pas être basées sur notre fatigue, nos émotions, mais sur la parole de Dieu. Il faut y croire. Alors, plein de fois, enfin, moi j'ai pas mal de versets là qui disent vraiment quand Dieu a parlé, quand Dieu a promis, il ne revient jamais sur sa promesse. Dans Ésaïe 46, 11, il dit « Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. » Donc à partir du moment où vous avez reçu quelque chose de Dieu, et là, je veux quand même dire qu'il ne faut pas se lancer sur quelque chose, une pensée qui vous vient ou quelque chose qui n'est pas confirmé. Moi, je très souvent, je demande à Dieu des confirmations pour que je sois sûr de me baser, non pas sur une parole qui est passée, mais sur une vraie promesse. Et de rechercher la certitude. Parce qu'on peut facilement, des fois, dans l'épreuve, se convaincre que Dieu veut faire quelque chose. Ah oui, et puis des fois, on a des frères et sœurs qui sont bien intentionnés et qui vont venir nous dire, oui, mais Dieu va ceci, mais Dieu va cela. C'est bien d'encourager, mais Dieu a prévu un chemin et il faut, et Dieu a prévu une destination, et il faut savoir laquelle. Et pas se l'imaginer en mode je suis dans un roman, ou se laisser faire par nos émotions qui vont vouloir construire un avenir qui n'est pas celui que Dieu a prévu, ou alors d'avoir des frères et sœurs qui viennent nous encourager parce que humainement, avec l'amour fraternel, on veut encourager. Moi, pendant longtemps, on m'a encouragé dans une voie au niveau professionnel, en me disant mais ça va marcher et tout ça. Et en fait, ça n'a pas marché. Donc, c'était sur le moment, ça donnait des ressources pour continuer, mais Dieu a quand même fermé la porte. Donc, à un moment donné, moi, j'ai pu mettre foi dans des paroles que des frères et sœurs me disaient, parce qu'ils voulaient m'encourager, mais ce n'étaient pas des paroles de Dieu. C'était des paroles des frères et sœurs qui, avec amour, voulaient soutenir. C'est pas mauvais. Sauf qu'il faut prendre ce recul et recevoir l'assurance. C'est Dieu qui donne la foi. Et quand on va vraiment devant Dieu en disant « Je veux que tu me donnes la foi sur ta vérité pour mon avenir », il va construire cette foi qui est ce que lui veut réellement faire. Alors, il ne faut pas arrêter de vous encourager les uns les autres. C'est pas ce que je dis. Mais de le faire avec discernement, quoi. Alors dans Habacuc 2.3, il est dit, la parole, c'est la vision que Dieu a donnée, c'est une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc là encore, dans l'épreuve, on sait... Le retour de Jésus, on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais la fin de l'épreuve, c'est pareil. En général, on a rarement la date de fin. Il n'y a pas de date de péremption qu'on peut lire sur l'étiquette. Donc c'est un peu compliqué. Mais finalement, en Marc 5, 36, Jésus finit par dire « Ne crains point et crois seulement. » Et c'est ça qui doit être notre force dans l'épreuve. C'est vraiment d'être dans la foi et d'abandonner la crainte. Parce qu'à partir du moment où on reste dans la crainte, c'est qu'on ne s'est pas approprié ce que Dieu a dit et on ne fait pas confiance à Dieu complètement. Alors quand on ne fait pas confiance à Dieu complètement, on s'imagine un plan B. Parce que des fois c'est facile, on se dit bon, Dieu il a dit un truc, mais bon, le nombre de fois où il y a des témoignages, Dieu m'a dit ça, et puis 30 ans après... Alors bon, on est dans l'épreuve, on dit, moi, je n'ai pas envie d'attendre 30 ans, Dieu a dit quelque chose, bon. Alors peut-être, on va se retrouver comme Abraham. Abraham a eu la vision d'un fils, Dieu voulait agir d'une manière, et lui, il s'est dit, c'est un petit peu long cette affaire, je vais chercher un plan B. Donc plan B, c'était la servante. Bon. Malheureusement... Ça n'a pas fait le job, quoi. Je veux dire, ça a apporté des problèmes parce que ce n'était pas le plan A que Dieu avait prévu. Alors, des fois, on va vouloir agir, on va vouloir aller vite, on va peut-être se convaincre que c'est ce que Dieu nous demande, mais attention, il faut vraiment conserver le discernement et ne pas se lancer dans un plan B. Parce que, finalement, Abraham aurait pu se dire, Dieu a dit que j'aurais un fils, je l'ai eu. Victoire. Je suis arrivé là où Dieu avait prévu, mais finalement, non. Dans le processus, il y a eu un loupé quelque part, et il a pris un autre chemin. Et ça ne fait pas le boulot correctement, clairement. Donc, faire confiance à Dieu, c'est renoncer finalement à chercher un plan B. Et si Dieu ne donne pas quelles sont les étapes, etc., eh bien, il faut attendre. Parce que moi, j'aime bien ce film d'Indiana Jones, là, où il doit passer un gouffre. Et puis, finalement, il n'y a rien. Et puis, il a cette confiance juste de poser le pied. Et au moment où le pied se pose, il y a le pont qui apparaît. Et souvent, on est comme ça. On se dit, bon, bah, Dieu nous demande juste de faire un pas dans le vide. On est dans l'épreuve, on ne sait pas quoi faire. Mais... il ne nous montre pas tout le chemin. Il dit, le chemin, c'est d'arriver de l'autre côté. La manière dont tu vas le faire, c'est pas en suivant les étapes sur ton GPS, en sachant déjà la route. Moi, je suis venu, j'ai fait Montpellier jusqu'à Angers. Il vous met toutes les étapes, toutes les villes par lesquelles vous passez. Généralement, Dieu, il montre la vision, il donne la vision, et puis il dit, c'est un pas après l'autre. Bon. Alors, le truc, c'est que si Dieu a prévu de traverser le gouffre ici, si tu prends le plan B, tu risques de tomber très bas. Donc, c'est là où ben, on attend, on écoute, et puis on fait les pas que Dieu demande. quand il le demande. Et finalement, bah, tout ça, c'est de l'obéissance, quoi. Quand Dieu va parler, quand Dieu va nous pousser à faire un pas, il va falloir le faire et pas prendre un moyen détourné. Parce que ça, il y a jamais de raccourci dans l'épreuve. Il y a que des rallongements. Et Dieu a prévu le processus. Et si nous, on se dit, on va faire un choix parce qu'on a l'impression que ça va régler la situation plus vite, malheureusement, comme pour Abraham, eh ben, ça fait des circonvolutions et puis on finit avec des problèmes et on finit par retarder souvent la fin de l'épreuve. Parce qu'on n'a pas fait les bons choix, qu'on a pris la mauvaise route, qu'on pensait que ça irait plus vite et que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Donc là, il faut rester obéissant dans le timing et voilà, on peut se retrouver dans l'épreuve et puis Dieu a donné une promesse qui est très forte. Et des fois, il y a simplement l'épreuve de la persévérance. La persévérance, c'est attendre, garder la conviction, garder la foi, prier, parler d'une manière qui est en cohérence avec notre foi et agir en cohérence avec ce qui fait notre foi. Parce que ça, c'est très important, c'est que si on fait des choix qui sont contraires à notre foi, ça ne va pas marcher, c'est-à-dire... je sais pas, pour prendre un exemple, si par exemple Dieu dit bah voilà je vais te donner une voiture, si à un moment donné on se dit par soi-même je vais moi-même aller faire le tour des vendeurs pour aller choisir ma voiture, c'est pas forcément le moyen que Dieu a choisi, et il veut juste qu'on attende et qu'on persévère. Donc, il nous donne une vision d'une voiture qui va arriver, il ne nous dit pas comment. Et à un moment donné, si nous, on se met à chercher par nous-mêmes et puis à se dire, bon, Dieu a dit que j'aurai une voiture, donc je vais commencer à mettre de l'argent de côté pour acheter une voiture, mais si la vision, c'est la voiture, Dieu ne dit pas comment faire, et Dieu dit qu'il va la donner. Donc, s'il la donne, c'est pas à nous de l'acheter. Voilà. Donc dans une vision que Dieu donne, il y a des choses qui vont être de notre part, il y a des choses qui ne sont pas de notre part. Et si à un moment donné, on fait des choix qui ne sont pas cohérents, parce que Dieu va me donner une voiture, donc je mets des sous de côté, il donne ou tu l'achètes. C'est un exemple tout bête, mais on peut appliquer ça dans plein de domaines, à dire, bon, Dieu va nous demander de faire des choix, de nous positionner par rapport à ce que lui, il a dit. Et s'il a dit une chose et que nous, on peut avoir quelques doutes et que du coup, on va agir pour se faire un petit plan B, ça marche pas bien parce que il faut se rendre compte que notre ennemi, il nous regarde. Et il va mesurer, lui aussi, il est là pour mesurer notre foi. Et si il se rend compte qu'on va proclamer, oui, Dieu va faire ça, mais que par derrière, on se dit, au cas où il ne le fait pas, je vais préparer mon petit pécule, ça ne marche pas. On est en train de finalement se contredire nous-mêmes. Et puis, à un moment donné, il faut savoir se battre, dans le sens où on peut se trouver dans une épreuve et à un moment donné, une des étapes ou un des moyens d'en sortir, ça va être le combat spirituel. Et le combat spirituel, voilà, il faut savoir qu'on peut être dans l'épreuve parce que Satan nous attaque, c'est une réalité, il veut nous empêcher De construire notre relation avec Dieu. Il veut nous empêcher de réaliser les missions que Dieu nous donne. Il veut nous empêcher d'accéder à nos bénédictions. Et à un moment donné, il faut se battre. Et ce qui se passe, c'est que on peut se retrouver à attendre que Dieu agisse, alors qu'il nous demande d'agir. Et que souvent, pour que les choses bougent sur terre, c'est à nous de proclamer et d'aller au combat spirituel. Il y a un autre pasteur qui a dit « Des choses ne bougent pas dans notre vie parce qu'on n'a pas la colère contre ces situations. On s'en contente. Il faut avoir une sainte colère pour que les choses bougent. Tu sais pourquoi ta vie est en retard ? C'est parce que ta colère est en retard. » Les gens qui ne se fâchent jamais spirituellement n'engendrent jamais leur destinée. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'on est en combat spirituel pour que notre destinée, ce que Dieu a prévu, puisse aboutir. Et il y a des moments dans l'épreuve où si on attend en disant « Dieu a donné la vision, je reste sur mon canapé et j'attends qu'elle arrive », on peut attendre longtemps sur le canapé. Parce qu'à un moment donné, non seulement il faut que nos paroles soient en cohérence, nos actes soient en cohérence, et aussi de discerner quel est l'ennemi qui est sur notre route et qui nous empêche d'avancer sur le chemin. Et des fois, ça demande à se mettre en colère, parce qu'on a le droit d'être en colère contre Satan qui veut nous plomber la vie quand même. Donc, à un moment donné, si on reste comme ça, à attendre, on peut attendre longtemps, et puis on peut penser à Daniel, qui a eu la vision de la restauration, du retour à Jérusalem, et qui a dit « Oh, mais là, c'est le moment de combattre. » Il y a un moment pour combattre. Et puis, quand on est à l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit, dans l'épreuve, il va nous dire quand est le bon moment. Et il y a un verset qui est connu, Matthieu 7, verset 8, qui dit qu'on a en français, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. Et il y a une version anglaise qui dit « Keep asking and it will be given to you », c'est-à-dire « continue de demander ». En fait, dans une traduction qui dit « c'est pas juste tu vas taper et on va t'ouvrir », c'est « continue à taper jusqu'à ce qu'on t'ouvre ». Et des fois, on est un peu... on n'a pas assez d'endurance dans le combat, on n'a pas assez d'endurance dans la prière, on n'a pas assez d'endurance dans le positionnement. On peut être, par exemple, en difficulté avec un collègue, mais on se dit, mais pourquoi avec lui ça va pas? Et puis à un moment donné, on jette l'éponge, on dit, de toute façon, je lui parle plus, voilà, on va faire la gueule. Parce que, à un moment donné, dans cette épreuve relationnelle, Dieu, il veut voir à quel point on est endurant dans l'amour qu'on donne. Et si à un moment donné, on arrête de donner de l'amour, on ne va pas atteindre le but et on ne va pas réussir à se réconcilier avec cette personne, ou on ne va pas réussir à si cette personne a vraiment besoin de recevoir quelque chose, on ne va pas pouvoir lui donner parce qu'on va se mettre en retrait, on va finalement se désengager de la mission que Dieu nous a donnée dans cette relation-là. Donc j'aime bien cette traduction qui nous dit continue de chercher, continue de taper, continue de demander. Il y a une épreuve, cette épreuve, en général, les épreuves demandent la persévérance. Et puis, pour en revenir à Jésus-Christ, qui est là au milieu de l'épreuve, je vais citer le nom parce que c'est mon pasteur, Rodrigue Sacramento, qui dit « Si je veux faire les œuvres de Dieu, je dois être une œuvre de Dieu. » Et si on dit « Seigneur, je veux t'obéir, je veux faire des grandes choses pour toi », et qu'on ne se laisse pas travailler, on ne va pas être prêt pour le faire, on ne va pas être en capacité de le faire. Et oui, Seigneur, je veux te servir, mais alors, si c'est sans se remettre en cause, sans travailler sur soi, sans se laisser transformer par Dieu, ça va pas pouvoir aboutir, parce que quand Dieu, qui est le potier, il veut nous former pour nous donner la forme du vase qui va correspondre à la mission qu'il nous donne, si on se laisse pas faire, on va être déformé. De toute façon, on est déformé, on est comme ça, et puis on peut être déformé par les problèmes de la vie, et Dieu il veut nous restaurer, il veut nous transformer pour qu'on puisse avoir la forme parfaite pour le but qu'il nous donne. Mais il faut chercher à ressembler à cette image, à qui est Jésus-Christ. Et donc, si on veut passer l'épreuve sans se dire qu'on a des choses à changer en nous-mêmes, soit l'épreuve va être longue, ou soit ça n'aura pas atteint le but. Donc il y a cette chose importante de revenir au milieu, la clé de lecture. C'est Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ en nous aussi. Comment on arrive à le faire grandir en nous. Et puis je vais bientôt terminer, parce qu'il est tard. Une chose importante reste la confiance en Dieu. Quand Dieu dit en Jérémie 29, 11, « Je forme pour vous, je connais les projets que je forme pour vous, et je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne des choses qui sont bonnes, qui sont pour nous donner de l'espérance, une vision d'avenir sur laquelle il veut qu'on se positionne avec confiance. Et il dit encore en Isaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et puis, il y a pas mal de versets comme ça qu'on peut reprendre, où Dieu nous encourage vraiment de lui faire confiance, parce qu'il a tout entre ses mains. Et comme pour les géants qui habitaient Canaan, il veut nous donner notre Canaan à chacun. Et les géants qui sont dans ce Canaan, il sait déjà comment vous donner la victoire. Et j'aime pour terminer le dernier verset de Romains 4, 18. Il n'y avait plus d'espoir, et pourtant, Abraham a espéré. Il a cru en Dieu. Dieu transforme l'impossible en possible. Et il faut savoir que dans l'épreuve, on sème beaucoup de choses. On va semer de nos vies, on va semer de qui on est. Et la Bible nous parle de récolte. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Et Jacques 5, 11 qui dit « Nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. » Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Voilà, j'aimerais simplement qu'on puisse fermer les yeux, juste s'arrêter. J'ai 5 petites questions, et puis se dire, par rapport là où je suis maintenant, peut-être je ne suis pas dans une épreuve, tant mieux, mais quelle est, peut-être dans une épreuve passée, ou peut-être je connais un peu mes faiblesses, donc quel point est-ce que il va falloir que je traite, que je travaille? Et la première question, c'est quelle épreuve vis-tu? Discerne s'il y a quelque chose, même un moindre petit quelque chose qui où tu te dis, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un truc où je suis mal à l'aise. C'est peut-être une difficulté que Dieu veut que tu en prennes conscience, et que, comme ce pasteur disait, à un moment donné, que tu te dises, mais c'est pas possible que ça continue. C'est pas possible. Il y a quelque chose à faire. Finalement, je me suis peut-être habitué à une situation qui n'est pas bonne. Et pour sortir de cette situation qui n'est pas bonne, il faut en prendre conscience. Et il faut écouter Dieu, finalement, sur des choses qui sont rentrées dans notre routine et qui ne sont pas de lui, et dont il veut qu'on se débarrasse. Et puis, dans l'épreuve, dans les difficultés dans lesquelles tu peux être, est-ce que tu as reçu une direction de la part de Dieu? Parce qu'on peut avoir un GPS, si on ne lui dit pas où est le point d'arrivée, on ne va jamais savoir quel chemin prendre. Et Dieu veut nous donner cette information, pour chacun de manière particulière. Il y a le logos, les paroles que Dieu donne dans sa Bible, et il y a les rémas, c'est les paroles prophétiques, les choses qui vont être dites à chacun, personnellement, individuellement, dans sa situation propre. Et Dieu veut parler là-dessus. Et puis ensuite, Dieu a parlé. Est-ce que tu as mis toute ta foi et toute ta confiance dans ce qu'il dit? Ou est-ce que tu te prépares un plan B? Et as-tu mesuré aussi la marche que tu as déjà accomplie, ce que tu as déjà gagné, quelle transformation Dieu a permis que tu vives? Et c'est des éléments importants pour continuer à avancer. Parce qu'on peut se dire, l'épreuve est longue, oui, mais je suis déjà plus le même qu'au début. Et je ne serai pas, je suis pas encore, je serai pas le même à la fin, parce que je veux me laisser travailler par Dieu. Seigneur, merci parce que jamais, mais jamais une seconde, tu ne nous abandonnes. Et qu'on peut être comme Jésus sur la croix, tellement accablé, qu'on a l'impression que tu nous as abandonnés, mais ce n'est jamais le cas, Seigneur. On veut déjà faire de cette vérité une parole dans laquelle on met toute notre confiance et toute notre foi. Et comme tu ne nous abandonnes pas, tu veux nous mener, nous prendre par la main, nous sortir des difficultés en nous permettant de grandir, d'être transformés, de ressembler toujours plus à Christ. Parce que ce que tu prévois, c'est des projets d'espérance, des choses bonnes. Et même si l'épreuve, elle n'est pas suscitée par toi, mais que c'est dans les aléas de la vie, dans les attaques de l'ennemi, tu te sers de chaque chose pour les transformer en bénédiction. Et on veut être dans cette attente positive de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de nous accompagner. Amen. J'aurais juste une petite parole pour l'Église. Il y a eu un temps où des pierres ont été taillées et certaines pierres ont besoin d'être changées de place. Des pierres qui étaient bien à leur place et Dieu les a taillées pour aller servir autrement, différemment dans le corps. Et Dieu va parler à ceux qu'il veut voir bouger. Dieu va susciter des nouveaux désirs, des nouvelles envies, des nouvelles manières de le servir, des nouvelles manières de s'engager. Parce que c'est pas un Dieu statique. Et il nous donne des qualités, des capacités, et finalement, au fur et à mesure de nos vies, il en donne des nouvelles. Il donne des nouvelles visions, des nouveaux désirs, et il faut pas rester attaché à ce que Dieu a dit avant et ce qu'il nous a fait vivre avant, parce qu'il fait toutes choses nouvelles. Et des personnes ont été taillées comme des pierres qui doivent être changées de place. Et c'est aussi simple que ça, parce que ce que Dieu veut bâtir, c'est une église forte. Et une église forte, elle est basée sur des pierres qui sont à la bonne place. Sinon, l'édifice ne peut pas être solide. Donc c'est aussi simple que ça, et c'est aussi simple que ça parce que aussi, quand ces pierres vont être déplacées, d'autres vont pouvoir prendre la place. Et je tiens à dire que Karel et sa famille, ce sont les prémices. Les prémices des personnes qui vont être envoyées dans cette église et qui vont pouvoir prendre leur place parce que vous, ici déjà, vous avez écouté ce que Dieu vous dit et que vous vous êtes placés et que vous avez osé faire des choses nouvelles, osé faire différemment et osé modifier comme le plan de l'architecte qui au départ était bon et qui évolue au fur et à mesure du temps parce que l'Église est un corps vivant et qu'il veut continuer à construire et qu'il y a toujours des étapes et qu'après avoir taillé des pierres, il faut qu'elles soient bien placées. Voilà. Pendant longtemps, il y a eu cet exemple de ici au Colombier, de donner, d'aider le pauvre avec la fraternité. Il y a eu toutes ces démarches vers les autres qui montraient au monde l'amour de Jésus en œuvre, en acte. Et je pense que Dieu appelle cette Église à devenir porte-parole, de devenir plus prophétique dans ce qu'elle choisit de vivre, dans ce qu'elle reçoit et qu'elle ne garde pas pour elle-même et partage aux autres, de ce qui se passe dans le ciel, de ce que Dieu veut faire, une dimension plus prophétique. Et que chacun y soit ouvert, parce que c'est pas seulement les personnes qui peuvent avoir un don de prophétie, qui peuvent recevoir des paroles de connaissance, des choses comme ça. C'est pour chacun ici d'être prophétique en entendant Dieu pour sa propre vie et en lui obéissant. Et c'est suffisant pour être prophétique. On ne demande pas d'avoir des paroles extraordinaires. Le prophétique, c'est d'entendre Dieu et puis de dire ou d'agir selon ce qu'il a dit. Finalement, de réaliser sa parole sur terre. Et c'est ce à quoi cette Église est appelée. Soyez bénis.